bienvenue à tous si vous nous rejoignez, Sabrina avec vous. J'espère que vous passez une bonne journée, que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la découverte d'un artiste, comme tous les vendredis pendant une heure, un artiste du Val d'Oise ou d'Île-de-France. Et pour co-animer cette émission avec moi, Teddy. Bonjour Teddy.
Bonjour Sabrina.
Teddy, stagiaire en journalisme.
C'est ça.
Donc tu es convié à mon émission pour t'exercer à l'interview. Et on a un artiste qui est slameur de grand-père. Bonjour.
Bonjour Sabrina.
Comment tu vas?
Écoute, bien. Bien.
En pleine forme?
Oh oui, on peut le dire comme ça.
Ça fait plaisir. Slameur de grand-père, tu es venu nous parler de ton album, De balade avec
en
un
balade.
L, en balade avec deux L. On va en parler.
D'accord.
Un album qui est sorti il y a déjà quelques mois, il y a trois mois?
Oui, en février.
En février, plus de trois mois alors.
Oui, oui, à force de trois mois, ça fait quatre.
C'est ça. Un album, neuf titres.
Neuf, oui.
Que du slam.
Ah, que du slam, oui. Je ne sais faire que ça.
Voilà, puisque c'est ton domaine que tu maîtrises à la perfection. Alors, Slameur de grand-père, je ne sais pas si tu connais mon émission, Le Carré des artistes. Ici, on découvre des talents de la région, des talents de notre département. On les met en lumière et je suis ravie puisque tu es mon premier slameur.
Ah, merci.
Voilà, donc je suis ravie. On va écouter.
Je suis très honorée.
Moi aussi. On va écouter plusieurs de tes titres. J'en ai sélectionné quatre. Et j'espère que ça plaira aux auditeurs. Avant de commencer à découvrir ton univers, est-ce que tu peux nous dire qui tu es?
Eh bien, je suis un septuagénaire qui a rencontré le slam sur les rives de sa soixantaine et qui depuis se passionne pour ce genre d'expression artistique.
Donc tu as découvert le slam très tard?
Tard. Oui, on peut dire, à la retraite.
Et comment ça se fait? Comment tu as découvert cet art?
J'ai quand même été bercé, étant jeune, par Brel, Brassens, Ferrat, enfin les auteurs à texte. J'aimais beaucoup Molière. Voilà, j'aimais le texte, j'aimais la poésie. Et puis, il y a eu un concours de circonstances, un hasard, qui a fait que j'ai été amené à devoir écrire un texte une fois, à partir d'un événement particulier. Et c'est avéré que j'avais et du goût et peut-être un peu de qualité pour faire ce genre de choses. Ça m'a enthousiasmé et maintenant ça me passionne.
Et qu'est-ce que tu faisais dans la vie, toi, avant de...
Dans la vie, je travaillais dans les collectivités territoriales, les mairies, j'étais un fonctionnaire territorial. Donc pas du tout un artiste. Je n'ai aucune formation artistique au départ et je n'avais aucune expérience artistique avant de rencontrer le slam.
Et qu'est-ce que t'écoutais comme type de musique alors? Est-ce que t'étais un...
Oh, j'ai,
un grand consommateur de musique.
Du fait que j'ai quand même aujourd'hui 70 ans, on peut remonter loin. J'ai écouté les Beatles, les Rolling Stones, bien sûr, comme tous les jeunes de mon époque. Puis après, vraiment les chanteurs à texte, Léo Ferré, Brassens, Brel, Ferrat, Barbara. Voilà. Plus de la musique traditionnelle aussi. Une influence corse aussi, parce que je partage ma moitié de ma vie sur le continent et avec la Corse.
La chance.
Voilà. Oui, vraiment, beaucoup. Et donc, diverses inspirations qui m'ont conduit sans doute à slammer, sachant que c'est quand même un concours de circonstances qui m'a amené à le faire. J'aurais très bien pu ne jamais faire ça.
Alors, ton premier texte, on peut le dire, comment tu as écrit ton premier texte? Il me semble que c'était... si je me rappelle, pour un anniversaire.
C'est ça, c'est ça le concours de circonstances. C'est qu'en fait, j'ai mon copain de maternelle, parce que on est toujours amis. Et quand il a eu 60 ans, il m'a bien sûr invité. Et il a dit à tous ses invités, je ne veux pas qu'on me fasse de cadeau. Je veux que qui fasse une musique, qui fasse un texte, qui fasse une danse, qui fasse une peinture. Et moi, je ne savais a priori rien faire. Ou en tout cas, je n'avais pas d'aptitude particulière dans aucun de ces domaines. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux bien faire. Et il se fait que ce que j'avais de particulier, je me suis appuyé sur ce que j'avais de particulier, c'est le fait que c'était moi qu'il connaissait depuis le plus longtemps.
D'accord.
Puisque c'était mon copain de maternelle.
Ouais.
Et donc, j'ai fait un texte. Alors, à l'époque, j'écoutais aussi beaucoup Grand Corps Malade, qui commençait. Ça me plaisait bien. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire un texte de cette façon, quoi. Et j'ai fait ce premier texte-là. À la fin, tous les invités sont venus me voir en me disant « Ah, oh, c'est très bien, vous en faites souvent. » J'ai dit « Non, j'en fais jamais. »
Tu peux avoir un autographe.
Et puis j'en fais... Non, c'était non. pas ça. Mais vraiment, bon, ils avaient, visiblement, ça avait plu. Ils souhaitaient savoir si j'en faisais souvent. Donc moi, alors, j'ai dit « Non, j'en fais jamais. » Et ça sera jamais, puisque c'est... Et puis voilà. Et puis après, je suis moi-même, j'ai été amené à réunir des gens. J'en ai fait un autre. Et puis après, de fil en aiguille, et j'ai rencontré des musiciens. Voilà, bon. C'est ça l'état.
Tu jouais même pas d'un instrument.
Ah, pas du tout. Je ne joue toujours pas d'instrument.
Et tu
je suis
joues
pas musicien.
T'es pas musicien.
Non. J'avais jamais écrit une ligne de poésie. Je ne joue pas d'instrument. Je ne suis pas du tout un musicien. Non. J'avais pas du tout la fibre artistique. Et j'ai jamais eu une vie artistique.
Mais et c'est dingue d'arriver à 60, plus de la soixantaine, et de débuter finalement une mini carrière dans la musique, quoi.
Oui, oui,
c'est
oui,
ça, c'est que là tu fais même
je suis surpris moi-même.
Parler,
hein. ouais. Oui, je suis surpris moi-même et j'ai surpris beaucoup mon entourage parce que j'étais pas du tout là-dedans, quoi.
Et moi j'aime bien dans mon émission mettre en avant le fait de dire finalement peut-être qu'on a tous une petite part d'artiste en nous.
Ça, j'en suis persuadé. Ouais. Je suis persuadé que tout le monde a une capacité créative, artistique, une fibre qu'il ne connaît ou qu'il ne connaît pas. Il faut que la vie leur parfois donne la possibilité d'exprimer. Moi, je l'ai eu de façon tout à fait hasardeuse, comme ça, simple. Mais oui. Alors peut-être dans un domaine où il y a peut-être moins de monde qu'ailleurs. Enfin bon.
Teddy, est-ce que toi, ça t'interpelle? Son parcours et surtout voilà le slam qui est généralement dédié un peu aux jeunes aussi hein, parce que c'est un exercice un peu les prémices du rap on va dire.
Voilà exactement et moi justement par rapport à ça, est-ce que pour vous ça a été facile en fait de trouver sa place, votre place plutôt dans ce domaine parce que c'est un domaine qui est surtout réservé aux jeunes et surtout aux jeunes et pas forcément on s'attend pas forcément à voir quelqu'un de votre âge pratiquer cet art mais c'est très bien et c'est justement beau, c'est ce qui fait la beauté de votre parcours, mais est-ce que c'est facile de trouver sa place dans ce domaine
Alors pour moi ça a été facile dans la mesure où je n'ai pas cherché ma place. Je veux dire, d'accord. Moi, j'avais.
Elle t'attendait.
Encore une fois, elle m'attendait. Je sais pas. En tout cas, vu la façon dont je vous ai relaté le début, c'est évident que j'avais pas envie de faire une carrière ou quoi que ce soit. Donc moi, ma place, je l'ai trouvée tout naturellement en faisant ce que je faisais, et c'est au fur et à mesure que les gens ont apprécié. Après, je pense que si j'ai réussi à trouver ma place, c'est parce que j'assume parfaitement ce que je suis. J'ai pas essayé de me mettre une casquette sur la tête ou de croiser les doigts pour faire jeune. Je fais des textes qui sont de mes inspirations. Moi, je suis pas par exemple, je suis pas un slameur issu du rap. Il y a beaucoup de slameurs qui sont issus du rap. Il y en a des très très bons. Hein. Mais bon, voilà. Moi, je vais pas m'amuser à dire que je suis rappeur alors que j'ai pas du tout pratiqué cette forme d'artistique.
C'est ça.
Voilà. J'ai fait mon propre chemin en assumant. Je m'appelle slameur de grand-père. Il y a des raisons. Hein. Oui, je cache rien.
Tu le dis. T'es slameur et tu es grand-père.
Je suis slameur et je suis grand-père. Et c'est peut-être pour ça que les gens ont d'une certaine façon apprécié. En tout cas, ceux qui viennent me voir dans mes concerts, parce que justement, ils vont voir un grand-père slameur. Mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de jeunes et d'enfants qui sont étonnés quand ils entendent mes textes, parce qu'ils ne s'attendent pas forcément à ça. Quoi.
Alors, je propose justement, pour que les auditeurs découvrent ton univers et ta façon de déclamer tes textes, qu'on écoute le premier titre que j'ai sélectionné. Donc, c'est l'Olivier. C'est le quatrième titre de ton album,
oui.
Balade en balade, qui est disponible, je ne sais pas comment les auditeurs peuvent se le procurer.
Il faut qu'ils
te contactent.
Ils me contactent, oui.
C'est artisanal.
Voilà, c'est artisanal, oui, parce que c'est... j'essaye de passer beaucoup de temps sur les concerts, sur les rencontres. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, mais je travaille aussi
bien
beaucoup
sûr.
Avec les scolaires,
oui.
Avec dans les établissements scolaires. Donc voilà, je fais les CD qui accompagnent, et puis à la fin de mes concerts, on peut se les procurer.
Alors moi, je veux juste, avant de lancer le titre, je veux juste te féliciter pour cet album, moi, qui me rappelle, tu sais, les albums d'avant, en fait, avec la petite pochette où on se dépêchait d'aller voir les textes, il y a des images, c'est vraiment comme un petit livre, en fait, même avec des très belles illustrations.
C'est de balade en balade.
Ouais, et je trouve ça top, vraiment, de l'avoir en physique, en tout cas, c'est vraiment bien.
Oui, c'est tout l'intérêt du CD. C'est comme le livre, hein. Je veux dire, on peut lire sur un ordinateur, mais bon, quand on l'a dans la main, ça permet, l'illustration permet aussi d'accompagner le texte. Et puis bon, ça me permet aussi d'associer, parce que je fonctionne comme ça, beaucoup d'amis dans mon, bon, voilà, c'est une amie qui m'a fait la maquette, c'est des amis qui me font les photos, c'est, voilà.
C'est que de la collaboration.
Ça, c'est ma petite voisine qui a fait la pastille du CD, une jeune de 18 ans. Enfin, voilà, ça me permet aussi d'associer beaucoup de gens autour de moi. C'est un peu comme ça que je fonctionne aussi. Hein.
Très bien. Ben écoute, on part pour la première découverte.
On y va pour l'Olivier. On va en Corse.
On va en Méditerranée, de balade en balade. Slameur de grand-père sur IDFM Radio.
Olivier, patriarche vénéré, fils aîné de toutes les familles de Méditerranée, tu es la sève, tu es le sang de ceux qui t'ont planté, t'es leur père nourricier, la mère qui les a enfantés. T'as traversé les temps, tu es de tous les âges, les plus belles références sont toutes à ton image. Tu sais l'histoire des hommes, tu connais leurs mystères, on n'a rien à t'apprendre puisque t'es millénaire. Tel trait d'union, des vallons, des campagnes, de Corse, du Maghreb, de Grèce, d'Italie ou d'Espagne. Tu captures le soleil, nous berces et nous régales, de la plainte amoureuse, de tes grillons, de tes cigales. On a tous un olivier dans sa vie, dans sa tête, un olivier dans son cœur, un olivier des poètes. Dédaignant la corpulence du châtaignier le montagnard, délaissant le prestige et la gloire du laurier ce vantard, face au grand chêne, pétri de puissance et de vanité, tu arbores humblement ton feuillage argenté. Majestueux, ton tronc noueux et crevassé dessine une silhouette torturée, plus robuste qu'on l'imagine. Dans le miroir de ton bois dur et parsemé de veines, se reflète une force et une beauté sereine. Mais tu souffres et gémis lorsque l'été s'embrase, quand les flammes et le vent font vaciller tes bases. Si le gel en hiver te porte un coup fatal, au printemps tu renais de tes racines ancestrales. On a tous un olivier dans sa vie, dans sa tête, un olivier dans son cœur, un olivier des poètes. Rameau affiche un air guindé qui n'est pas le tien, quand il parle le costume des académiciens. Il est plus à son aise, quand d'un léger coup de pinceau, il voyage dans le bec de la colombe de Picasso. Si de Mare Nostrum, Lucky Luke avait connu les rives, c'est un brin d'olivier qu'il calerait dans ses incisives. Et Malus à la fontaine qui s'est rendu coupable de ne t'avoir point fait le héros d'une fable. Symbole de tolérance, de sagesse et de respect. Ta mission, c'est l'amour, la concorde et la paix. Tu flottes à tous les vents sur la bannière de l'ONU, mais tu peines à t'imposer, ton message est méconnu. On a tous un olivier dans sa vie, dans sa tête, un olivier dans son cœur, un olivier des poètes.
Argentino,
Sous tes branches sont nées les trois religions du livre. Sous ton ombre, leurs enfants ont acquis le droit de vivre. Qu'ils s'appellent Rachel, Ange, Maria, Rachida, Mikis ou Laurence. Ils partageaient tes fruits, ton huile, ton bois dans l'insouciance. Aujourd'hui, dans la loi du pouvoir et du fric, te voilà la victime de leur folie, de leur trafic. Au royaume de l'ingratitude, l'homme est sans entrave. Il t'arrache, te déporte, te vend comme un esclave. Maintenant, tes feuilles sont arrosées de larmes. Le chant des cigales fait place à celui des armes. Et quand en Palestine, ta terre natale, les colons te déracinent. C'est une culture, c'est une histoire. C'est un peuple qu'on assassine. On a tous un olivier dans sa vie, dans sa tête. Un olivier dans son cœur. Un olivier des poètes.
C'était le titre L'Olivier, extrait de l'album Slammer de grand-père, de balade en balade sur IDFM Radio. Vous êtes de retour dans l'émission Le Carré des Artistes. Jusqu'à 15h, nous sommes accompagnés de Slammer de grand-père, Slammer et grand-père, de Teddy aussi, le stagiaire.
C'est ça.
Ça va ?
Ça va.
Toujours ?
Teddy le stagiaire, c'est presque un nom de slammer.
C'est ça, ouais. Ouais. Bah, à la fin, je vais lui demander de faire un live.
Alors ça, on verra. Mais
Ça va, il se démonte pas. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce titre ?
Ah oui, oui, c'est...
Magnifique.
Magnifique. Donc d'abord, je rappelle, hein, moi je ne fais pas les musiques. Donc la musique a été composée et elle est jouée par Sylvie Biagioni.
On entend le violon.
Voilà. Et c'est toute une histoire, ce titre, parce que, en fait, à l'origine, il y a un village qui s'appelle Lourdes, qui est dans le nord de du Cap Corse, et une femme qui a pris des photos de son village, et notamment des photos en hiver, parce qu'on ne prend pas toujours des photos en hiver en Corse, et c'est dommage parce que la Corse est belle aussi l'hiver. Et ces photos ont été publiées accompagnées de poèmes écrits par une autre femme de ce village. Et puis Sylvie Biagioni a composé la musique, elle a enregistré un CD avec plusieurs morceaux. Elle a mis donc en musique ses images et ses poèmes. Et elle a enregistré un CD qui s'appelle Slamprino. Et donc moi je suis venu, j'ai entendu tout ça, je connaissais bien Sylvie Biagioni. Et donc je suis venu par-dessus, je dirais, je me suis rajouté où j'ai écrit ce texte que j'ai appelé l'Olivier. Que je joue en duo donc avec Sylvie Biagioni.
Et alors quel rapport toi tu as avec la Corse ? Pourquoi la Corse ?
Ah ben là encore, hein, concours de circonstances,
un voyage.
Ma vie elle a toujours été faite de ça, d'événements qui se produisent, qui d'un seul coup deviennent considérable dans ma vie, c'est-à-dire que ça prend pas des proportions, mais ça se développe. Bon, c'est comme ça. Le slam, la Corse, pareil. J'ai mis les pieds en Corse en 1989, je crois, la première fois. Et après, j'y suis retourné tous les ans, et maintenant, j'y passe 4 mois par an, quoi.
Et tu te produis même là-bas?
Alors, je fais presque plus de concerts en Corse que sur le continent, ouais.
Donc, t'es connu là-bas, sur l'île de Beauté?
Connu, non, parce que, tu sais, dans ce genre, c'est pas le problème, mais dans ce genre d'expression artistique, c'est pas très médiatisé, bon. Il y a pas mal de gens qui me connaissent, mais après, c'est pas une grande médiatisation. Hein. Peu importe.
C'est ton premier album?
Celui-ci?
Ouais.
Non, c'est le troisième.
Donc, depuis que t'as commencé, tu as fait trois albums de neuf titres.
Oui. Moi aussi, ce sera toujours neuf.
Ce sera toujours neuf. Et qu'est-ce que tu te dis quand tu décides de sortir des projets comme ça? Qu'est-ce que tu recherches? C'est quoi ta finalité avec ces projets?
Ah bah c'est à la fois de faire quelque chose qui me plaît et qui bien sûr fasse plaisir à celui qui va l'entendre, parce que le slam c'est de l'oral, hein. Il faut l'entendre. Donc c'est d'arriver à faire partager à un public ou mon émotion, ou ma colère, ou mon coup de cœur, ou un état d'âme, ou une interrogation, une atmosphère. Voilà. J'ai des inspirations très différentes. Ça peut être un mot. Je peux construire un texte en partant d'un seul mot. Je peux, à l'inverse, avoir une idée, un objectif, et construire le texte pour servir l'idée que je veux développer. Je peux jouer avec les mots. Alors là, ça, bon, le texte est plus léger et c'est la technique d'écriture, enfin, le jongler avec les mots, quoi. Ça me plaît beaucoup. Donc voilà, c'est des inspirations très différentes et mon objectif, c'est d'arriver à avoir en face de moi des gens qui, dans leur expression, dans leur visage ou autre, ben voilà, manifestent ou du rire, ou du bonheur, ou des larmes. Parfois, ça arrive parce que j'ai quelques textes qui sont bon, qui provoquent beaucoup d'émotions. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je les ai conçus, et c'est comme ça qu'ils sont reçus. Voilà, c'est un petit peu. Bon, moi, j'ai simplement la motivation de me faire plaisir et de faire plaisir, quoi.
On voit de toute façon que tu. Je pense que ça, tu es passionné.
Passionné. Passionné à la fois parce que ce type d'écriture me passionne et aussi parce que je découvre tous les jours un univers qui m'était complètement inconnu. Complètement inconnu, celui du spectacle, celui de la technique, de tout ce qui est autour, les pommeaux, les disques. Enfin bon, c'est moi, c'est un. Tous les jours, faire une émission comme celle-là, c'est quelque chose à laquelle j'aurais pas du tout pensé il y a 10 ans, enfin, même il y a 6 ans. Enfin, c'est inconcevable.
Et moi, j'avais une question aussi. Comment on en arrive à passer de écrire un texte pour l'anniversaire d'un ami à, comme ça, monter sur scène, faire des émissions, faire des albums? Comment on fait cette transition? Voilà.
Je pense que je fonctionne dans ma vie artistique comme je fonctionne dans ma vie personnelle. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui aime bien les gens, qui aime bien s'entourer, qui aime bien travailler avec du monde. Je suis toujours dans le collectif. Je fonctionne, même quand je suis dans une expression personnelle, je la considère toujours dans un collectif. Donc, ça s'est fait très progressivement, c'est-à-dire que dans ces anniversaires où je faisais quelques textes au départ, un musicien est venu me voir à la fin en me disant, ça me plaît bien, si tu veux, on peut travailler un peu ensemble, je peux te faire une musique, on peut essayer, allons-y comme ça.
D'accord.
Et puis après, j'ai été entendu par des enseignants qui m'ont dit, ce serait bien si vous pouviez venir faire travailler nos élèves. Et ainsi. Donc ça se développe comme ça, au fur et à mesure. À chaque fois que je fais un concert route, à la fin, il y a quelqu'un qui vient me voir, et je débouche sur une nouvelle forme. Soit c'est sur un travail scolaire, soit c'est avec des associations, soit c'est sur du duo. Voilà. Et puis j'ai rencontré des musiciens qui ont créé, des musiciens qui jouent avec moi, parce que là aussi, pour eux, c'était une expérience très intéressante. Enfin, en tout cas, ils l'ont vécu comme tel, quoi.
D'accord.
Est-ce que le slam, c'est comme le sport et il faut pratiquer pour un peu exceller? Ou est-ce que tu te poses même pas cette question et tu te dis je cherche pas forcément la performance entre guillemets à me perfectionner mais je
moi la performance je la cherche mais pour moi par rapport à mes propres pairs, c'est-à-dire quand le texte me plaît bien et surtout quand je l'ai pas écouté puis d'un seul coup je l'entends 2 mois, 6 mois, 1 an après puis je me dis c'est pas si mal que ça ouais c'est pas mal. Elle est là, la performance. Ah, après, il n'y a pas de code. Je veux dire, il n'y a pas de chrono, il n'y a pas de record à battre, il n'y a rien. C'est simplement, en plus, c'est ça, un des aspects passionnants du slam, c'est qu'il n'y a pas de règles, vraiment.
Ouais, ouais.
Je veux dire, chacun se fixe ses règles et les groupes, parce que je fais aussi des soirées ouvertes de slam, enfin, des scènes ouvertes, ainsi de suite. Et d'ailleurs, il y a quand même pas mal de slameurs qui participent, je le dis, qui sont des personnes qui ont plus de 50, 60, 70 ans, hein, dans ces rencontres de slameurs comme ça, dans un café ou autre. Mais on se fixe nos propres règles et le plaisir, la performance, elle est là. Il n'y a pas d'entraînement. Parce que autrement, j'aurais jamais réussi à faire ça et à 60 ans. À 65 ans. Non, c'est autre chose. C'est pas du sport. Pas du sport.
Est-ce qu'on écoute le deuxième titre?
Ah, si vous voulez.
Alors moi, qui m'a fait beaucoup rire, qui en fait, je pense, toutes les générations vont être d'accord finalement avec toi. C'est le titre À vos marques.
Ah oui. J'espère.
Que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, tu pourras nous en parler tout de suite après. On écoute le titre À vos marques, extrait de l'album de Slammer de Grand-Père, de balade en balade sur IDFM Radio pour le Carré des Artistes. À tout de suite.
On vit vraiment une époque fantastique. Tout est marchand, tout est économique. Hier, on baptisait les lieux, les équipements, du nom d'un personnage ayant marqué son temps. Aujourd'hui, on jette aux oubliettes le vécu de la France. Le récit national a pour label Made in Finance. Une course de voilier porte le nom d'une marque de café. Au fronton d'une salle de spectacle, une chaîne d'hôtels est paraffée. Pour le Stade de Nice, le patronyme d'une compagnie d'assurance. Idem au Mans et à Lyon, c'est la loi du marché, la concurrence. Et nos enfants pensent innocemment que Jacques Vabre Transat est la chaise longue d'un marin normand, qu'à Corotel Arena est la plage du quai de Bercy, Alliance Riviera un footballeur de Croatie, Groupama Stadium un groupe de rock qui enflamma le Stade Lyonnais à une lointaine époque. Adieu Jaurès, Sand, De Gaulle, Curie, vous n'êtes plus dans la course. Bienvenue à L'Oréal, Capgemini ou autre star de la bourse. Un jour, le 14 juillet, pour fêter la nation, la République, on dansera Carrefour, Auchan ou place Schneider électrique. Voyez comment demain, nos enfants nourriront la mémoire. Quelle trace, quel témoignage ils laisseront dans l'histoire. Écoutez par exemple ce que pourrait être l'inventaire des logos des enseignes qui jalonneront leur univers. C'est à la maternité Pernod Ricard que je rentre en lice. Puis je fais mes premiers pas à la crèche et Lactalis. Je poursuis à Nutella, la maternelle du quartier, située rue Coca-Cola. On fait pas les choses à moitié. C'est à l'école McDonald's que je rentre en primaire, au collège Samsung, au lycée YouTube pour le secondaire. J'intègre ensuite Amazon, l'école de commerce de Paname, puis Lehman's Brothers, université de haut de gamme. Et pour parfaire ce florilège de parrainage, je fréquente Facebook, médiathèque à la page, le cinéma Netflix et la piscine Jacob de la Font, la patinoire Findus et le théâtre Décathlon. Et pour respirer autre chose que le bitume et l'asphalte, je m'oxygène au parc floral, Monsanto glyphosate. Souvent, je vais à PFG. Non, c'est pas le club de la capitale. Ça veut dire pompe funèbre générale. C'est le nom de l'EHPAD où grand-père séjourne suite à sa glissade. C'est BlackRock, sa caisse de retraite qui l'a conseillé et l'hôpital Servier Mediator qui a relayé. Vous voyez, on vit une époque formidable. Les non-profs vont devenir plus fréquentables. Le patrimoine humain et culturel dont on a hérité, joyeusement rebaptisé sur l'autel de la publicité, fait de l'entreprise l'icône de la bien-pensance, la matrice de la vie, la référence. Alors un grand merci aux géniteurs du naming, le top du top, la grande innovation du marketing. Grâce aux vertus de cette nouvelle signalétique, on transmet une solide connaissance historique. On lègue assurément à la postérité les traces indélébiles de notre humanité. Le naming est une pratique qui nous vient d'outre-Atlantique, qui n'a pas son équivalent dans notre lexique. C'est bien qu'il en soit ainsi, et je tiens à le dire, il me fait tellement honte que j'entends pas le traduire.
C'était À vos marques, titre extrait de l'album De balade en balade de Slammer de Grand-père, avec nous aujourd'hui pour le Carré des artistes, qui est toujours, bah voilà, avec nous. On a rigolé en écoutant le titre. Et Teddy, stagiaire en communication, qui se prête au jeu de l'interview.
C'est ça.
Alors un titre À vos marques qui m'a fait rire, moi, qui m'a fait sourire et rempli en fait de vérité, ben de oui. Vérité que beaucoup pensent, je pense.
Tant mieux.
Alors, comment ça t'est venu?
Ah ben, c'est... Là, voilà. Là, on est sur un texte que j'ai écrit. J'ai mis du temps à l'écrire parce que l'idée, je l'ai eue au moins il y a 3-4 ans parce que j'étais vraiment effaré par cette mode qui consiste à donner des noms de noms commerciaux à des écoles, à des établissements, à des compétitions. Enfin, voilà. On est en train de marchandiser, compris.
Jacques Vabre, on va donner quelques...
Voilà. Et là, bah, Jacques Vabre Transat. Ouais. Et donc... on est en train, y compris, d'effacer l'histoire, quoi, parce que une des forces de baptiser les rues, les équipements ou de nom, c'est que ça transmet une histoire, ça transmet quand même quelque chose, quoi. Et donc je trouve ça lamentable, quoi. Ça m'a, et alors j'avais cette idée en tête et je m'étais dit il faudra que je fasse un texte, et puis voilà, puis un jour je me suis mis devant le clavier et j'ai écrit et c'est devenu voilà À vos marques, parce que ça fait partie de voilà ces petits phénomènes de la vie qui à un moment m'interpellent et j'ai envie d'écrire dessus.
On voit aussi l'image dans le petit livret de ton album qui oui. qui est drôle aussi puisque tu remets un peu les marques.
Oui.
Et est-ce que tu as contribué à ces dessins ou est-ce que tu as fait écouter à la personne et c'est elle qui a fait le dessin, non, l'illustration?
Non, moi je suis ni musicien ni dessinateur ni quoi que ce soit. Non, moi j'ai fait écouter le texte et puis elle a, en fonction de ça, les gens qui ont travaillé sur la maquette, voilà. Moi, les marques, je sais pas si j'en ai donné une ou spécialement. Non, ils ont choisi.
Ils ont choisi.
C'est pas moi qui fais ça. C'est comme les musiques, hein. Je fais pas, je touche pas, je donne mon avis. Si ça colle bien avec le texte, je prends.
Est-ce que tu penses que c'est générationnel ce que tu décris dans ce texte À vos marques, que toi tu as la vision, on va dire, du grand-père forcément, oui, qui a un certain âge et où tu te dis finalement on perd notre histoire un petit peu en modifiant et en donnant des noms commerciaux, oui, à des événements, des écoles, peut-être des rues bientôt. Est-ce que tu penses que c'est générationnel?
Ah non, c'est pas générationnel parce que je suis pas nostalgique, c'est pas un problème de nostalgie. Là, c'est un coup de gueule que je pousse, hein. C'est pas un regret. Alors évidemment, je le regrette, mais non, là, c'est une analyse sociale que je fais, économique, sociale. Je dis, on marchandise. C'est pas les gens qui font ça, c'est pas parce qu'ils ont envie de supprimer l'histoire du pays, c'est parce qu'ils veulent faire de l'argent. Donc ils ont un motif économique et le motif économique supplante toutes les autres logiques. C'est ça que je dénonce, hein. C'est pas telle marque ou telle marque, ça m'écondonne. À la limite, qu'une entreprise porte le nom d'une marque, ça me paraît tout à fait logique. J'aurais du mal à admettre qu'un fabricant de chocolat s'appelle Jacques Brel. Vous voyez, bon, ça tient pas la route. Mais quand on commence à appeler une piscine Coca-Cola ou je ne sais là, ça m'interpelle.
Ça pose problème.
Voilà, je pense que c'est une marchandisation de la vie et que ça a pour effet, entre autres, de rabaisser la transmission historique. Mais c'est pas un problème de génération, parce que je connais des jeunes qui sont, même s'ils n'y sont pas forcément sensibles, mais quand on en parle, ils sont d'accord. Et là, c'est générationnel. Évidemment, à 20 ans, on n'est pas sensible à cette question, forcément, de la même façon qu'à 70. Ouais. Mais par contre, l'analyse, on peut la partager.
Bien sûr.
C'est pas pareil.
Est-ce que le slam a aussi une forme de... comme ça, de dénoncer des faits de société, un peu comme le rap, hein. Est-ce que tu te considères artiste engagé ou concerné?
Alors, je suis un artiste qui a une œuvre engagée. Oui, je revendique le fait que mes slams sont des slams engagés. Je ne suis pas ce qu'on appelle un artiste engagé parce que je ne suis pas un militant. Je ne suis pas un artiste militant. C'est-à-dire que si je veux militer, je le ferai à côté, j'écrirai des tracts, des journaux, des articles. C'est pas ça. Je veux rester dans le domaine de la poésie. Je tiens absolument à ce que mon expression, au départ, enfin, fondamentalement, reste une œuvre qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça c'est autre chose, mais poétique. En tout cas, je le revendique de la poésie. Une forme de poésie populaire. Voilà. Donc, après, évidemment, j'ai des partis pris, des positions, mais, encore une fois, c'est d'abord une œuvre écrite et je fais passer ce que je pense. Donc, c'est effectivement des engagements, mais je ne me considère pas comme engagé parce que mon objectif n'est pas de d'intervenir de cette façon-là, quoi.
Et comment t'écris?
Ah bah
avec un papier.
Non, pas avec un papier.
C'est une question qui surprend un peu, mais c'est vrai que moi je vois des artistes, toutes les semaines je reçois des artistes et chacun a sa manière d'écrire, chacun écrit dans un état aussi d'esprit différent, de façon différente, et ça m'intrigue demander comment vous écrivez.
Alors moi j'écris d'abord dans ma tête en me réveillant le matin. C'est vrai, hein. C'est le moment où entre le moment où je me réveille, le moment où je me lève, il y a une petite demi-heure, trois quarts d'heure, où là mes phrases elles tournent. Et souvent il y a de l'inspiration. Et après, je me mets sur le clavier. Et effectivement, je fais pas la main parce que je raye tellement, je bouge les textes tellement, je fais passer le deuxième paragraphe au troisième, voilà.
À l'ordi? À l'ordinateur.
À l'ordinateur. Parce que il y a cette, enfin, dans mon plaisir et dans mon expression, il y a cette dimension du jeu de mots. Donc, il faut que, voilà, tel mot, il serait mieux à la troisième phrase qu'à la quatrième, parce que la rime sera plus riche, parce que, au point de vue de l'oreille, ça va mieux sonner, et ainsi de suite. Donc, c'est à la fois un travail, il y a vraiment une partie de bricolage, quoi, mais qui est presque physique avec le mot, quoi.
Ce que je disais, c'est un Tetris, finalement, de mots.
Oui, c'est ça. Et donc, des fois, il y a l'idée, et puis il arrive aussi que le scénario, il change en cours de route, hein. Mais en général, je mûris longtemps, j'écris très vite.
Et en combien de temps tu peux écrire un texte? La moyenne?
Mais c'est pareil, hein. Si je prends l'écriture de ma tête, si je l'incline dedans, ça peut faire des mois.
Ah ouais.
Parce que je mûris le sujet. Bon. Et puis, quand je commence vraiment à écrire, je dis bon, maintenant, il faut le faire. J'y vais. Là, ça prend 3-4 jours pour avoir la base. Et alors après, ça prend plusieurs jours de réécoute. Et en fait, mes textes sont jamais définitivement écrits. Il m'arrive même, quand je les fais sur scène parfois, de changer des mots. Parce que j'ai une autre idée, un autre mot qui... Ou alors je constate que oralement, j'ai du mal à prononcer tel mot, donc je le change. Et puis, voilà, je suis toujours en train de changer un mot, une phrase. C'est une écriture perpétuelle. Mais le gros, c'est 2-3 jours. Quand je me mets dessus, genre là, ça part, quoi.
Tu fais aussi des ateliers d'écriture, du coup, t'en as parlé un petit peu, mais tu sais que tu animes énormément d'ateliers. Est-ce que tu veux nous en parler?
Alors, ce ne sont pas des ateliers d'écriture, parce que justement, moi, je suis pas un romancier, je suis pas un écrivain. Ce sont des ateliers de slam. Le slam, faut toujours avoir en tête que c'est de l'oral. Oui, et en fait, par exemple, moi, je donne très rarement mes textes écrits. Quand on me dit, on aimerait bien avoir quelque chose, je donne l'enregistrement oral, parce que pense que... Moi, mon texte, je ne l'écris pas pour qu'il soit lu, je l'écris pour qu'il soit entendu. Et quand on entend mes textes et quand on les lit, on n'a pas la même... C'est pas la même saveur. Lire après, c'est bien, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas forcément saisies du premier coup. La lecture aide après à la compréhension, mais il faut commencer par l'oral. Donc moi, quand je travaille dans les écoles, avec des associations, avec des jeunes, des enfants, des plus jeunes, ou avec des retraités, je fais aussi des stages avec des retraités, en fait, on fait vraiment du slam, c'est-à-dire que ils commencent devant une feuille blanche ou devant un clavier, il termine sur une scène avec un micro face à un public.
Donc passage obligé à la déclamation.
Ah, complètement, oui, mais on écrit, à un moment on arrête d'écrire et on devient slammer. Enfin, voilà, on passe à l'oral. On travaille l'oral, on travaille la diction, on travaille l'expression. Et après on travaille le contact avec le public, c'est-à-dire qu'il termine toujours par un spectacle. Alors ça peut être devant les élèves des autres classes, ça peut être devant les parents, ça peut être devant un public, peu importe. Il peut y avoir 20 personnes dans le public ou il peut y en avoir 500, suivant les circonstances. Mais on termine sur scène. On fait un exercice de A jusqu'à Z. Autrement, c'est pas du slam, quoi. Le slam, il faut que ça aboutisse avec ce contact, cette déclamation et cette oralité, quoi.
Comment tu fais le choix de tes fonds sonores, des instrumentales que tu as proposé même dans Balade en Balade?
Eh bien, je fais pas de choix puisque c'est pas moi qui fais la musique. Par contre, je donne des indications. Mon objectif, c'est d'essayer de ne pas être répétitif. Donc, de la même façon que dans mes textes, j'essaye de trouver des inspirations, des idées très différentes. Je pense que dans celui-là, on le sent bien. Je suis pas toujours dans la même thématique. Je suis sur des choses très différentes les unes des autres à chaque fois. Et j'essaye d'avoir la même démarche pour la musique. C'est-à-dire d'avoir des musiques d'inspiration très différentes. Donc, je peux avoir des valses, je peux avoir du tango, je peux avoir un petit peu de rap, je peux avoir du rock. Voilà. Et puis des instruments très différents aussi.
Et uniquement de l'instrument. Tu fais pas de...
Non. J'ai fait 3 CD. Il y en a un. Le premier, il est enregistré en direct avec... Il a été pris sur scène.
Oui.
Comme on dit en live.
Oui,
moi, je dis
oui,
en
oui.
Direct,
c'est
en direct. Parce que moi, le franglais, ça n'a jamais été mon truc. Ça fait partie aussi de...
Pour le moment.
Non, ça fait partie aussi de... Le franglais, c'est pas mon affaire. Et là, celui-là est enregistré en direct. Autrement, non, c'est des musiques qui sont composées en studio, mais pas forcément en instrumental. Ça peut être en électronique, quoi. Mais par des musiciens, donc notamment parmi ceux-ci, il y a Sylvie Biagioni, mais il y a aussi Jean Zignani, qui lui est le guitariste qui m'accompagne sur scène. Que je suis accompagné sur scène par 4 musiciens, un bassiste, Arnaud Hilpert, une flûtiste Doris Simon et une pianiste qui s'appelle Masae Gimbayashi et Jean Zignani qui est guitariste. Et maintenant, j'ai aussi maintenant je fais connaissance avec un contrebassiste qui va travailler aussi avec nous, qui va m'accompagner, qui s'appelle Michel Bartisol.
Alors, je rappelle à nos auditeurs que nous sommes avec Slameur de Grand-Père. Aujourd'hui, jusqu'à 15h, on découvre son univers, le slam, sa vie, aussi les concerts que tu vas donner. Tu es venu nous parler de ton album De Balade en Balade. Et je propose qu'on écoute, justement, parler de texte engagé. Eh bien, on va écouter L'Engagé, si ça te va.
Oui, tout à fait.
Très bien, c'est parti. Vous êtes dans le carré des artistes. Sabrina avec vous et Teddy.
Toujours là.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être pendant le confinement. Je viens de recevoir votre appel sanitaire pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, oui, je veux bien le faire. Je suis jeune infirmière qui veut soigner les gens. Durant ma formation, on m'a donné la flamme. On a forgé mon âme et nourri ma passion. Oui, j'y suis jour et nuit, mais refuse de me taire. Non, je ne suis pas en guerre. Je combats pour la vie. Je suis mobilisé. Je vois mourir des pères. Je vois souffrir des mères et des soignants brisés. C'est pas pour vous fâcher, mais il faut que je vous dise, et ça me terrorise. On y va désarmé. On nous envoie au front comme des soldats sans casque, comme les soldats sans masque, sans gel, sans munitions. Depuis que je suis né, j'ai vu des politiques tuer l'hôpital public. C'est eux qui ont déserté. Demain, de bon matin, je fermerai ma porte. J'irai encore plus forte, soulager mon prochain. Je ferai ça toute ma vie, sur les routes de France, de Bretagne, en Provence. Et je dirai aux gens, refusez, désertez la casse fanatique de notre service public des solidarités. Quant aux remerciements, surtout, gardez les vôtres. Vous êtes bon apôtre, Monsieur le Président. Si vous me répondez par le biais des gendarmes, moi, je serai sans armes contre les LBD.
C'était L'Engagé sur IDFM Radio. Vous êtes de retour dans le carré des artistes avec Slameur de Grand-Père.
Parfait, c'est bien Teddy, bravo. Ouais. Donc on est de retour dans le carré des artistes. On vient d'écouter le titre L'Engagé, comme l'a dit Teddy. Alors, hein, on a compris de quoi ça parlait.
Petit retour en arrière.
C'est ça.
On est en mars 2020.
Ouais, un moment qu'on aimerait bien, qu'on ne va pas oublier, mais qu'on aimerait bien oublier quand même.
Oui.
Alors toi, comment t'as vécu, avant de nous parler du titre, est-ce que tu peux nous dire comment t'as vécu ce moment, ces moments de confinement ?
Je dois dire que par rapport à d'autres, j'ai plutôt bien vécu parce que j'habite dans un pavillon, que j'avais un jardin, que j'avais des occupations, que j'étais pas obligé d'aller travailler tous les jours, que mes enfants étaient élevés, que voilà, j'avais pas de contraintes. Donc, comme je suis d'un naturel un peu prudent, et un peu trouillard, je me suis bien isolé pour pas choper la bestiole. Donc, voilà, moi je n'ai plutôt bien vécu.
Ça t'a pas fait peur? T'étais pas en panique à ce moment-là parce que on avait peur pour les anciens. Bon, on avait peur pour vous, hein, clairement.
Oui, c'est vrai. Non, mais j'étais pas en panique parce que je suis prudent, que je me suis bien isolé. J'étais pas en panique et puis je suis pas non plus de naturel à trop paniquer. Donc je l'ai pris avec flegme. J'en ai profité pour faire du jardinage, pour faire d'autres choses,
pour écrire
un petit peu. Pas beaucoup. Particulièrement parce qu'il n'y a pas eu de choses. J'ai écrit après un petit peu, j'ai eu un regard sur cette période de deux façons. L'une plus ou moins humoristique qui s'appelle donc 2020 l'enfoiré, un titre.
Qui fait partie d'ailleurs, c'est le titre 1 de l'album qui est, je voulais le passer, mais je pense qu'on va laisser les auditeurs aller le découvrir.
Oui. Et qui rappelle, et puis ce titre-là, L'Engagé. Alors L'Engagé, c'est pas seulement un regard sur cette période, c'est aussi un hommage rendu à Boris Vian, puisque c'était le centenaire de sa naissance, et Boris Vian, tout le monde sait, a écrit un texte qui s'appelle Le Déserteur, donc j'ai repris
le début,
le style, c'est-à-dire que je me suis inspiré du Déserteur, et j'ai voulu à la fois lui rendre hommage, et en même temps rendre hommage aux infirmières, enfin aux soignants, et notamment les infirmiers et les infirmières, qui en mars 2020 était au front, sans rien, sans masque, dans les pires conditions. Et donc, au lieu de l'appeler justement le déserteur, dans cet esprit-là, puisque lui refusait la guerre, et eux étaient obligés de la faire sans vouloir que ce soit une guerre, je l'ai appelé donc au contraire l'engagé. Voilà,
c'était le parallèle que tu
voulais faire. C'est un parallèle que j'ai fait entre cet hommage à Boris Vian et cet hommage aux soignants dans ce texte.
Alors, slameur de grand-père, tu fais aussi énormément de scènes.
Dans la mesure du possible, oui.
Et moi, j'avais une question.
Oui.
Comment le public y réagit quand vous passez sur scène? Comment il réagit à vos textes et comment il réagit quand il vous voit en fait déclamer ses textes?
Alors, il y a plusieurs types de publics. Il y a ceux qui me connaissent et qui viennent me voir pour me connaître. Qui viennent me voir parce qu'ils me connaissent. Et donc, ils viennent écouter des choses qu'ils ont envie d'entendre ou découvrir de nouveaux textes. Et puis, je joue beaucoup, par exemple, en Corse, je tourne dans les centres de vacances.
D'accord.
Avec, notamment en duo, avec un poète qui est mon voisin là-bas, là aussi, c'est esprit de famille, qui s'appelle Henri-Étienne Dessol, qui lui fait une poésie différente, c'est pas du slam vraiment, mais poésie très intéressante. Et donc, on fait les animations du soir dans les centres de vacances. Alors là, ils réagissent comment? La plupart du temps, ils commencent à se demander ce que c'est. Et donc, ils viennent et parfois, ils se mettent au bout du banc ou la chaise en se disant, si ça nous plaît pas,
on se barre.
On est à côté de la porte.
Et puis, je dois dire que très franchement, j'en ai pratiquement jamais vu se lever partir. Parce qu'ils découvrent et ils sont pris, ils sont captivés par les mots et
par
en fait,
l'histoire que alors tu le racontes.
Par l'histoire, ouais. Ils sont interpellés, certains s'y retrouvent, ils découvrent qu'on peut exprimer des choses qui sont en fait les leurs, de leur quotidien qu'ils ont vécu à une époque ou qu'ils vivent maintenant. Ils découvrent tout ça et alors donc j'ai en face de moi des gens qui ont cette expression, qui se mettent à rire ou qui parfois ont la larme qui coule parce que j'ai quelques textes qui les émeuvent. Et puis à la fin, souvent ils viennent me voir en me disant, mais vous savez, moi aussi j'ai un gendre qui fait ça, moi aussi j'ai une petite fille qui c'est en général pour eux, très souvent, donc d'un grand nombre de cas, c'est une découverte.
D'accord.
Une découverte, un étalement et une reconnaissance, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent dans ce qu'ils entendent. Alors soit, vous savez, j'ai un texte par exemple qui s'appelle Miss France qui dénonce un peu ce concours, ainsi de suite, parce que je trouve que c'est vraiment à rire, mais je sais aussi que dans les gens qui m'écoutent, il y en a peut-être 60-70% qui regardent Miss France à la télévision. Après, ils viennent me voir, certains, me disant, on va plus regarder ça de la même façon.
Ouais, ça fait réfléchir.
Ça fait réfléchir, voilà. On voit bien, des fois ça interpelle, ça fait réfléchir, ça émeut, ça distrait, ça fait rire. Peut-être qu'il y en a que ça a choqué ou que ça a mis en colère. Pas grave, c'est la vie.
C'est la vie. Chacun a le droit, finalement, c'est ça, la liberté d'expression. Chacun a le droit de dire ce qu'il veut.
Pour un grand nombre de gens qui viennent me voir quand ils ne connaissent pas, ils ne connaissent pas non plus le slam.
D'accord, oui.
C'est-à-dire que ce sont des gens qui découvrent à la fois l'expression et l'artiste. C'est une découverte totale pour eux en général.
Est-ce que tu penses que ton physique, ton âge, ça a aussi ça a un poids supplémentaire sur on va l'écouter, on va... Tu sais, quand quelqu'un parle qui a un certain âge, on se tait tous et on l'écoute, quoi, tu vois ? Est-ce que tu penses que ça joue en ta faveur ?
Je crois pas que ce soit dans l'idée... c'est le vieux sage qui va parler, on va l'écouter. C'est pas ça. C'est plus, tiens, un grand-père qui fait du slam. Étonnant. Alors, les jeunes, étonnant. En plus, quand ils entendent mes textes, ils se rendent compte que c'est pas forcément des textes de nostalgie.
En plus, tu parles comme un jeune. Tous les mots que tu utilises, on les connaît.
C'est les mots du quotidien de tout le monde. Donc, mais effectivement, c'est pas quelque chose qui m'a desservi, en tout cas. Vous savez, au début, quand il m'a fallu trouver un nom, j'ai trouvé celui-là, je trouvais que ça marrant, sympa, quoi. Et il y a quelques copains qui m'ont dit, ouais, tu vas voir, ça fait vieux, ça fait grand-père, ça va pas fonctionner. Moi, j'ai dit, j'assume, ça marche pas, je me dis, gars, mais je vais pas m'amuser à me transformer. Et en fait, non, au contraire. Effectivement, ça c'est une particularité, quoi.
Oui, et puis je pense qu'il y a aussi un côté authentique qui plaît aussi pas mal dans le fait d'assumer.
Alors, moi, j'essaie d'être le plus authentique possible à tous les niveaux, tant dans mon nom que dans mon expression, que dans le choix de mes musiques, ainsi de suite. Si je suis ressenti comme tel, alors là, grand bonheur, j'ai gagné. Je me fais plaisir. J'ai réussi.
Mais je pense que tu as cette place-là aussi et tous ces sentiments un peu positifs, puisque tu n'attends rien. Tu n'attends rien de ton art, tu profites, tu aimes, tu partages, comme on dit, tu kiffes, quoi.
C'est kiff parce que c'est du bonheur, ça me plaît. Le jour où ça marchera plus, ou le jour où je serai plus inspiré, ou le jour où il y aura trop de contraintes, parce que c'est quand même des choses compliquées à organiser.
Ouais, et puis t'arrêtes pas, franchement, quand tu me racontes un peu ce que tu fais,
ça me prend toute ma vie. Mais le jour où ça va devenir pesant, j'arrête. Je ferai autre chose, pétanque, tir à l'arc,
Tu prendras ta vraie
retraite. Croate, le japonais, tout ça, je sais pas, j'ai plein de choses à faire. J'ai pas d'état d'âme là-dedans.
Slammer en japonais, tiens.
Je slame pas en japonais, mais je suis traduit en japonais.
C'est vrai?
J'étais invité il y a une semaine ou 15 jours, non? 8-10 jours par une radio, dans une émission franco-japonaise. Une radio d'ailleurs du Val d'Oise, qui s'appelle Jazzbox International. Et une émission franco-japonaise qui m'invite environ tous les 5-6 mois, pour parler de, parce que justement, ma pianiste est japonaise.
D'accord.
Et donc elle anime cette émission. Et effectivement, le Japon est après la France le pays où je suis le plus connu dans le monde.
C'est marrant, ça.
Mais peut-être qu'il y a 17 personnes qui me connaissent. En fait, c'est une émission pour les Français du Japon et les Japonais du France. Donc, je suis traduit, effectivement, en japonais.
Super.
C'est rigolo.
Ouais, c'est marrant. Écoute, ce que je propose, c'est qu'on écoute le dernier titre. C'est Mon Quinquennat.
Oui.
Et on se retrouve tout de suite après. Malheureusement, l'émission va arriver à sa fin. Donc, on dira au revoir.
On dira au revoir, bien sûr.
On dira au revoir, on rappellera aussi.
Au revoir, ça veut dire qu'on se reverra. Donc.
Bien sûr, oui. Bien
pas
sûr.
De problème.
Et on rappellera toute ton actualité et où on peut te retrouver.
D'accord.
Mais en attendant, on écoute Mon Quinquennat, slammeur de grand-père pour IDFM Radio.
Cinq ans déjà que je trimballe mes verres. Dans ma valise estampillée slammeur de grand-père. Il est tombé à pic ce blast de circonstances. Quant à ma grande surprise, j'ai plongé dans la danse. Moi qui jamais de ma vie n'étais monté sur scène, j'abordais le slam sur les rives de ma soixantaine. Et puis c'est allé vite, c'est allé crescendo. Pas le temps de m'habituer, on ouvre le rideau. Propulsé sur les planches, c'était original pour quelqu'un qui était tout sauf un enfant de la balle. Au hasard, à l'opportunité, à qui je dois mon odyssée, je dis bravo, merci, j'en suis encore tout bouleversé. 5 ans durant lesquels j'ai toujours pu compter sur mes amis, sur ma famille qui m'ont soutenu, qui m'ont porté. Les photos, les vidéos, la régie, les éclairages, c'est l'œuvre de ma troupe, de mon bel équipage. Avec eux, j'ai découvert les coulisses du concert. J'ai vécu les aléas, j'ai surmonté les galères. Le câble trop court, la prise capricieuse, le chauffage en carafe et la sono défectueuse. Toutes les affres de la régie et de la technique, ils m'ont appris à les gérer, à ne pas céder à la panique. à cette armada de dévouement et de courage. Je dis bravo, merci pour ce compagnonnage. 50 connivences avec mes amis musiciens. Pour faire le troubadour, j'avais besoin de ces magiciens. Du charme, de cette alchimie qui met en phase la mélodie avec mes rimes, avec mes phrases. Avec moi, la musique n'a jamais été gâtée. Avec eux, avec le temps, je l'ai acclimatée. Association de bienfaiteurs en bande organisée. Partenariat pour slam instrumentalisé. À cette équipe de rêve, forgée avec simplicité, je dis bravo, merci pour cette complicité. 5 ans à slammer avec les jeunes dans les collèges, apprivoiser le texte pour le jouer en arpège. J'ai vu des tas de gamins exploser d'imagination, dompter le style, se révéler habile dans l'expression, débrider leurs sentiments, s'émanciper avec la poésie, devenir Abd al-Malik, Victor Hugo, la Boétie. Chasser leurs craintes, leurs inhibitions les plus tenaces. Pas facile le micro quand on est seul devant sa classe. Bel élan de solidarité quand les copains ont acclamé. Les plus timides, les moins à l'aise pour écrire et déclamer. J'ai vu des professeurs, les larmes au bord des yeux, découvrir chez leurs élèves un talent prodigieux. À tous ces mômes, pour cet élixir de jouvence, je dis bravo, merci, respect, reconnaissance. 5 ans dans mon bilan, un actif d'importance, ce qui du spectacle est vraiment la quintessence. La rencontre, la communion avec le public, échange chaleureux, jubilatoire et magique. Capter dans les regards une étincelle, un émoi, percevoir sur les visages la surprise ou la joie. En salle, dans la rue, dans un bar ou à domicile, le slam est convivial et l'osmose est facile. Direct, sans filtre, accessible et sans clivage, le slam transcende les genres, les origines et les âges. J'ai été fier et comblé par tous ceux qui m'ont dit se retrouver, se découvrir dans ma modeste poésie. Et si j'ai pu, simplement, avec mes petites histoires, procurer du plaisir, questionner ou émouvoir, j'en suis honoré et rempli de satisfaction, le saltimbanque a bien accompli sa mission. À tous ces témoignages, empreints d'humanité, je dis bravo, merci et fraternité. 5 ans mais un de perdu pour cause de pandémie. Ne pas jeter l'éponge ou sortir en catimini. Il me reste tant de curiosité à débusquer, d'injustice à démasquer et de raison de m'offusquer. J'ai encore sous la plume des coups de gueule et des coups de cœur. Romantique et rebelle, liberté, bonne humeur. Et puisque ma constitution autorise un deuxième mandat, je repars en campagne et je suis candidat. Toujours sans engagement, sans objectif et sans programme. Pas de profession de foi sauf la foi que j'ai dans le slam. Poursuivre mon aventure de slammeur de grand-père, c'est ma seule ambition, moi le septuagénaire. Et si je peux compter sur vous pour votre investiture, je vous dis bravo, merci et à la revoyure.
C'était Mon Quinquennat sur IDFM Radio, du slammeur de grand-père avec nous. On arrive dans la dernière, les 5 dernières, même pas, 2 dernières minutes de l'émission. Si les auditeurs veulent te retrouver sur les réseaux, veulent écouter ta musique.
Alors les réseaux, YouTube, alors le CD, parce que c'est quand même mon vecteur de communication, oui, de diffusion principale. YouTube, Instagram, ça c'est mes enfants, ouais, qui m'ont mis dessus.
On tape slammeur de grand-père et on te retrouve.
On me retrouve, mon site internet, voilà, sur Slammeur de grand-père. Et puis, bien sûr, les concerts que je vais t'amener à faire.
Et tu peux nous annoncer quelques concerts?
Je joue le 12 juin en duo. Pour la première fois, je vais faire un duo avec une pianiste concertiste qui s'appelle Masae Gimbayashi à Paris, au Théâtre de l'île Saint-Louis. Et puis, à la rentrée, pour l'instant, le 15 octobre dans l'Oise, à Tiverny, à Survilliers dans le Val d'Oise, le 27 novembre.
Ça s'arrête pas.
Le 12 décembre à Gennevilliers, avec un stage pour des retraités, un club de retraités. Et puis le février, je crois, dans l'Oise, à Saint-Jean. pour l'instant.
Et après, repos ou pas?
Non, je me repose, j'ai le temps, quoi. Mais je suis toujours au repos, moi, en fait.
Bah, merci beaucoup.
De rien. Est-ce que c'est moi qui vous remercie.
Bah oui, mais avec, franchement, moi, j'ai été merci ravie à Teddy, merci de te recevoir. Est-ce que tu as pu tout dire?
Ah bah oui,
et puis tu reviendras.
J'en reviendrai, et puis voilà, vous êtes curieux, vous me posez toujours des autres questions, alors j'y répondrai, avec plaisir.
Bien, merci beaucoup. Cette émission sera disponible en podcast sur le site internet de la radio idfm98.fr. Moi je vous dis à la semaine prochaine avec un nouvel artiste. À très bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Merci.
Au revoir.
C'était le Carré des Artistes avec Sabrina.